Chapitre 10. Vers le même temps, la cour d'Angleterre envoya, en qualité d'ambassadeur extraordinaire à Paris, le comte de Carlisle. Il venait, au nom de Jacques VI d'Écosse, Jacques Ier d'Angleterre, demander pour son fils, le prince de Galles, la main de Madame Henriette, fille de Henri IV. La demande fut favorablement accueillie et le comte de Carlisle retourna en Angleterre, porteur de bonnes paroles. Le comte de Carlisle s'était adjoint pour compagnon d'ambassade un des hommes les plus riches, les plus beaux, les plus élégants de l'Angleterre. C'était Lord Rich, depuis comte Rouland. En France, sa beauté avait semblé un peu fade aux hommes, qu'il accusait d'être trop blond et trop rose. Mais il n'en avait point été ainsi près de l'autre sexe, et Lord Rouland avait produit une vive impression sur les femmes. Il avait passé pour être le favori de Madame de Chevreuse, à laquelle, au reste, on commençait de prêter la plupart des aventures qui se passaient à la cour de France. À leur retour à Londres, les deux seigneurs racontèrent à Lord Buckingham, leur ami, ce qu'ils avaient vu de beau à la cour de France. Ils lui firent le portrait de toute cette pléiade de jeunes et charmantes femmes qui entouraient Anne d'Autriche. Mais, au milieu d'elles toutes, ils avouèrent que la princesse espagnole était reine par la beauté comme par le rang, et que rien ne pouvait, sous ce rapport, être comparable à la splendide majesté de la reine de France. Ce récit monta à la tête de l'illustre lord qui était chargé d'introduire le roman dans la triste et morose histoire de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Georges Villiers, duc de Buckingham, avait alors 32 ans. Il était né en 1592. Il était donc dans toute la force de son âge et de sa beauté. Jeune, riche, élégant, habile à tous les exercices, brave jusqu'à la témérité, aventureux jusqu'à la folie, il passait en Angleterre pour le cavalier le plus accompli, non seulement de la Grande-Bretagne, mais encore de l'Europe, et souvent sa renommée était venue réveiller désagréablement, au milieu de leur triomphe, les 17 seigneurs de France. On appelait ainsi les 17 seigneurs les plus accomplis de la cour de Louis XIII. Buckingham était venu une première fois en France vers l'époque de la mort de Henri IV. Il y avait séjourné un assez long temps pour revenir en Angleterre parlant admirablement le français et rapportant avec lui la réputation du plus brillant danseur qui fut au monde. On se rappelle la place que tint la danse à la cour du roi Henri IV et les troubles apportés dans le cœur du vieux monarque par les illustres dames figurant dans les ballets. Jacques VI, dans un divertissement que lui donnèrent en 1615 les écoliers de Cambridge, remarqua le jeune Georges Villiers, alors âgé de 21 ans. Comme sa mère Marie Stuart, Jacques VI ne savait pas résister au charme d'un beau visage. Il se fit présenter le jeune homme et le nomma son échanson. En moins de 2 ans, le nouveau favori fut créé chevalier, gentilhomme de la chambre, vicomte, marquis, duc de Buckingham, grand amiral, gardien des Saint-Ports. Ce qui le rendit si fier et si hautain qu'un jour, dans une discussion, trouvant sans doute que le prince de Galles ne lui parlait point assez respectueusement, il leva la main sur lui, tout héritier de la couronne qu'il était. Pour se raccommoder avec celui qui fut plus tard le grave et triste Charles Ier, il lui proposa une équipée digne de 2 jeunes fous. Il était question d'un mariage entre le prince de Galles et l'infante d'Espagne, cette même infante devenue depuis reine de France. Buckingham proposa au prince de Galles de partir incognito pour Madrid afin d'apprécier d'avance celle qu'on destinait alors à être reine d'Angleterre. À force d'instance, les 2 jeunes gens firent consentir Jacques VI à leur folie. Ils partirent et scandalisèrent la cour d'Espagne par leurs infractions à l'étiquette autrichienne. Le mariage fut rompu et Buckingham revint en Angleterre, conservant dans son souvenir comme un éblouissement l'image de la jeune Anne d'Autriche. Il en résulta que lorsque plus tard on lui parla de cette beauté entrevue, il n'eut qu'à remonter dans le passé encore illuminé des rayons d'un premier amour. Buckingham sollicita et obtint de Jacques VI la permission de venir en France pour mener à bonne fin les négociations entamées par le comte de Carlisle et Lord Rich. L'élégant favori de Jacques VI apparut donc à la cour de France, où sa première audience laissa des souvenirs impérissables dans les annales galantes de la cour. Le duc était vêtu d'un pourpoint de satin blanc broché d'or. Il avait jeté sur ses épaules un manteau de velours gris clair, tout brodé de perles fines. Seulement, ces perles étaient retenues par un fil de soie si frêle qu'au moment où le duc s'avançait pour remettre ses lettres de créance au roi, le fil se rompit et que les perles roulèrent sur le parquet. Il y en avait pour 200 000 livres. Les courtisans, croyant à un accident, se baissèrent pour ramasser cette pluie encore plus précieuse que celle de Danaé. Mais, à leur grand étonnement, lorsqu'ils voulurent rendre à Buckingham la moisson récoltée derrière lui, Buckingham, avec une grâce parfaite, supplia chacun de garder la part que le hasard lui avait faite, et, quelles que fussent les instances adressées, refusa de reprendre une seule des perles qu'il avait perdues. Alors on comprit que cette chute de perles était non point un accident fortuit, mais une galanterie préparée d'avance. Cette magnificence, opposée à la parcimonie de Louis XIII, frappa singulièrement Anne d'Autriche. La cour de France était l'une des plus galantes, mais était loin d'être une des plus riches d'Europe. Le trésor amassé par Henri IV à l'arsenal avait été employé à acheter 5 fois la paix au prince du sang. L'épargne était à sec et les augustes personnages dont nous avons l'honneur de nous occuper étaient fort gênés depuis le premier jusqu'au dernier. Buckingham n'eut pas de peine à s'apercevoir de l'effet qu'il avait produit sur Anne d'Autriche. Mais en pensant que, pour arriver au but qu'il se proposait, il lui fallait se créer de puissants alliés, le duc, accrédité par Lord Rich près de Madame de Chevreuse, se présenta chez elle, lui avoua sa passion pour la reine, et moyennant un nœud de diamant de 100 000 livres et un prêt de 2 000 pistoles, obtint qu'elle devint non seulement sa confidente, mais encore son auxiliaire. D'ailleurs, c'était pour jouer un mauvais tour au roi qu'elle avait aimé et au cardinal qu'elle haïssait qu'elle acceptait d'aider aux folies de Buckingham. Madame de Chevreuse n'hésita donc point un instant. Il fut convenu que Buckingham feindrait le plus violent amour pour Madame de Chevreuse. La chose n'avait aucun inconvénient, M. de Chevreuse n'ayant pas, comme Louis XIII, le ridicule d'être jaloux. Cette vieille ruse réussit. La reine, qui avait tremblé un instant en songeant au caractère bien connu de Buckingham, se rassura à la vue de cet amour publiquement déclaré et consentit à recevoir en secret les témoignages de respect et de tendresse que Buckingham mettait à ses pieds. Mais les occasions n'étaient pas fréquentes. La personne de la reine était soigneusement gardée, d'un côté par le roi, de l'autre par le cardinal. Madame de Chevreuse imagina de donner une fête somptueuse dans son hôtel. On consulta la reine qui accepta, et le roi, après avoir longuement mâchonné sa moustache, ne trouvant pas de prétexte pour refuser, accepta à son tour. Bien plus, voulant rivaliser de galanterie avec Buckingham lui-même, il fit à cette occasion cadeau à la reine de 12 ferrets en diamants. De son côté, le duc de Buckingham, qui avait soufflé à Madame de Chevreuse l'invention de cette fête, était à la recherche d'un moyen de quitter la reine le moins possible et, sous différents costumes, de s'attacher à ses pas depuis le moment où elle serait entrée dans l'hôtel de Chevreuse jusqu'au moment où elle en sortirait. L'ambassadeur parla de ce désir à Madame de Chevreuse et celle-ci était si bonne amie qu'elle le trouva tout naturel. Seulement, elle invita le duc à s'adjoindre un allié. Cet allié, c'était son beau-frère, le chevalier de Guise, autre fou bien digne de rivaliser avec Buckingham et qui eût certes soutenu la concurrence si l'argent ne lui eût manqué. À ce propos, disons un peu ce qui restait de la descendance du duc Henri de Guise, assassiné à Blois avec son frère, le cardinal de Lorraine. Il restait d'abord l'aîné, Charles de Lorraine, duc de Guise, né le 20 août 1571, et qui, par conséquent, à l'époque où nous sommes arrivés, avait 53 ans. C'était, comparé à son père et à son grand-père, un fort petit compagnon. Cette famille, qui avait jalousé les rois de France et mis la main sur la couronne de Henri III, était bien peu de chose quand on songe à ce qu'elle avait été un demi-siècle auparavant. Le prince que nous venons de nommer et qui fut le père de celui qui conquit Naples avait été, à l'âge de 17 ans, arrêtés et enfermés à Tours. Mais bientôt ils étaient échappés, avaient pris parti contre Henri IV. Puis, enfin, ayant fait sa soumission, il était rentré en grâce. Après la mort du grand prieur, bâtard de Henri II, M. de Guise eut le gouvernement de la Provence. Pendant sa résidence à Marseille, il fit connaissance d'une fille de cette belle Châteauneuf de Rieux qui avait été aimée de Charles IX, qu'Henri III faillit prendre pour femme, et qui, après avoir refusé la main du prince de Transylvanie, finit par épouser un capitaine de galère d'origine florentine qu'on nommait Altovi di Castellane. Je crois même qu'elle finit par le tuer virilement, dit l'Étoile, le trouvant un beau jour ou une belle nuit en conversation criminelle avec une autre femme pour parler comme nos voisins les Anglais. Mais avant la catastrophe, elle était accouchée à Marseille d'une fille qu'elle fit tenir sur les fonts de baptême par la ville même. L'enfant reçut le nom de Marcel. Comme ce nom se rapprochait de celui de la ville qui avait eu l'honneur d'être sa marraine, insensiblement, au lieu de l'appeler Mademoiselle Marcel, le peuple s'habitua à l'appeler Mademoiselle de Marseille, ce qui était bien plus logique puisque la ville était sa marraine. Le nom lui en resta. Cette jeune fille était une charmante personne, ayant la meilleure grâce du monde, blanche comme l'albâtre, avec des cheveux châtains, chantant bien, dansant à merveille, sachant la musique jusqu'à composer, faisant des sonnets comme M. de Gombeau, fière mais civile et étant l'amour de tout le pays. Le grand prieur, bâtard de Henri II, en avait été inutilement épris. Beaucoup de personnes de qualité l'eussent épousée si elle y eût consenti. Elle préféra être la maîtresse de M. de Guise. M. de Guise, cependant, était petit et camu. Mais il était de grande naissance et avait hérité de son père Henri cet air qui faisait dire à Madame de Sauve que, près du prince Henri de Guise, tous les autres princes avaient l'air peuple. Enfin, tel qu'il était, nous l'avons dit, M. de Guise plut à la filleule de la ville de Marseille. Cette galanterie dura quelques années. La pauvre Marcel croyait toujours que le duc finirait par l'épouser. Peut-être n'en eut-il pas même l'idée. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne lui fit pas la proposition de devenir sa femme. Elle, alors, la première, eut le courage de se séparer de lui. Lui, de son côté, quitta Marseille et revint à la cour. Elle chanta donc « Nouvelle Ariane », son abandon, enfermant tout le poème de sa douleur dans deux couplets dont elle fit l'air et les paroles. L'air étant perdu, nous ne pouvons malheureusement donner à nos lecteurs que les paroles. Les voici. Il s'en va, ce cruel vainqueur, il s'en va plein de gloire, il s'en va méprisant mon cœur, sa plus noble victoire, et malgré toute sa rigueur, j'en garde la mémoire. Je m'imagine qu'il prendra quelque nouvelle amante, mais qu'il fasse ce qu'il voudra, je suis la plus galante. Le cœur me dit qu'il reviendra, c'est ce qui me contente. Hélas, le cruel vainqueur ne revint pas. Aussi la pauvre Marcel tomba-t-elle malade. La maladie dura un an. Pendant cette maladie, n'ayant aucun patrimoine, elle avait, les uns après les autres, vendu tous ses bijoux. On avertit M. de Guise de sa détresse. Elle, avec le plus grand soin, la cachait à tout le monde. Aussitôt, le duc lui envoya 10 000 écus par un de ses gentilshommes, mais elle remercia fièrement le duc de Guise, lui disant qu'elle ne voulait rien prendre de personne et de lui encore moins que d'aucun autre. Que du reste, elle avait si peu de temps à vivre que, dans l'extrémité où elle était, elle se pouvait passer de tout le monde. Et, en effet, l'émotion ayant sans doute redoublé son mal, elle mourut la nuit suivante. On ne trouva qu'un sou chez elle. La ville la fit enterrer à ses frais dans l'abbaye de Saint-Victor. C'était un homme d'une complexion fort amoureuse que M. de Guise, fort inconstant, fort bavard surtout. Certaines anecdotes couraient sur lui qui avaient réjoui la vieille cour et qui réjouissaient encore la nouvelle. On racontait, entre autres choses, qu'une nuit, étant couché... Comment dirons-nous cela? Ma foi, disons-le tout simplement, comme Talmant des Réaux. On racontait qu'une nuit, étant couché avec la femme d'un conseiller au Parlement, on entendit rudement frapper à la porte. Les deux amoureux se réveillent en sursaut. La femme court à la fenêtre et reconnaît son mari qui, venant de retrouver dans sa poche une clé de la maison, mettait cette clé dans la serrure et rentrait tranquillement, sans se douter le moins du monde que sa place fût prise. La femme n'eut que le temps de crier au duc « Sauvez-vous, monseigneur !» Monseigneur se sauva, laissant ses habits sur une chaise. La femme court aux habits, en arrache les dentelles, vide les poches et se refourre dans le lit, juste au moment où le conseiller entre dans la chambre à coucher. Tout en se déshabillant, le conseiller voit des habits qu'il reconnaît pour n'être pas à lui. « Quels sont ces vêtements ? » demande-t-il à sa femme. « Un pourpoint et des choses qu'un revendeur m'a apportées, » répond celle-ci. « On les aura à bon marché. Regardez s'ils vous vont, et s'ils vous vont, vous vous en servirez à la campagne. » Le conseiller essaie l'habit et les chausses. Il lui allait comme s'ils eussent été faits pour lui. Sur ces entrefaites, l'heure sonne. « Bon, dit le conseiller, je n'ai pas le temps de me coucher. J'ai rendez-vous au palais à la première heure. » Et repassant sa robe par-dessus ses habits, il va à ses affaires. Lui dehors, M. de Guise sort de sa cachette et, ne pouvant s'en aller en chemise, il prend les habits du conseiller. En chemin, il se rappelle que Henri IV lui a recommandé, la veille, de venir au Louvre de bonne heure. « Par ma foi, dit-il, allons-y en conseiller, je conterai l'affaire au roi et il en rira. » Il va au Louvre, conte l'affaire au roi, qui non seulement en rit, mais qui, croyant que le duc lui fait un conte, envoie par un exemple l'ordre au conseiller de venir au palais. Le conseiller, tout étonné de l'honneur inattendu que lui fait le roi, arrive et salue. Le roi le tire à part, lui parle de 100 choses, boutonnant et déboutonnant sa robe, sans que celui-ci comprît ce que le roi avait à le fourrager ainsi. « Ventre Saint-Gris !» s'écrie tout à coup Henri IV. « Mais c'est le pourpoint de mon cousin de Guise que vous avez là !» Le conseiller ne voulait absolument pas le croire. Il fallut que le roi lui en donnât sa parole. Nous avons dit que M. de Guise était fort discret. Un jour, il rencontre le maréchal de Gramont et lui raconte qu'il vient d'obtenir les dernières faveurs d'une dame de la cour. M. de Gramont lui en fait son compliment, mais contre son habitude, garde le secret. Quelques jours après, M. de Guise le rencontre. « Hé, monsieur le maréchal, lui dit-il, il me semble que vous ne m'aimez plus tant. »« Pourquoi cela, monseigneur ? » ?»« Comment ? Je vous raconte que j'ai été l'amant de madame une telle pour que vous le disiez à tout le monde, et au contraire, vous ne le dites à personne. Ce n'est pas bien, monsieur le maréchal. » Et il le quitte tout piqué. Une autre fois, ayant passé la nuit auprès d'une personne qu'il avait, à force de protestation, fini par convaincre de son amour, la personne s'aperçut que le jour commençant à poindre à peine, monsieur de Guise, au lieu de se reposer et de s'endormir, se tournait et se retournait de côté et d'autre. « Qu'avez-vous donc, mon cher duc ? » lui demanda la dame. « Eh, pardieu, cher ami, répondit le duc, j'ai envie d'être dehors pour dire à tout le monde la satisfaction que je viens d'avoir à passer la nuit dans votre chambre. » Et, en effet, il se lève, sort et arrête le premier passant pour lui conter son bonheur. Un soir qu'il était venu à pied chez M. de Créqui, et qu'il y était resté plus tard qu'il ne le comptait, M. de Créqui ne voulut point le laisser retourner à pied à l'hôtel de Guise. En conséquence, il lui offre une hackenée. Le duc se débat un instant, puis accepte. Il monte sur la hackenée et lui lâche la bride. Or, la hackenée avait l'habitude de conduire son maître au logis d'une dame, où, de son côté, le maître avait l'habitude d'être galamment reçu. Elle y conduit tout droit M. de Guise. Au bruit de la bête, la porte s'ouvre. « Est-ce vous, monseigneur ? » dit une voix de suivante. « Ma foi, oui, c'est moi, » répond M. de Guise en se couvrant le nez de son manteau. « Entrez, madame est dans sa chambre. »« Où cela ? » ?»« Ne connaissez-vous pas la chambre de madame ?»« Si fait, mais j'ai eu affaire à des tire-laines et je suis un peu troublé. Conduis-moi. » La suivante conduit M. de Guise, toujours encharibotée dans son manteau, jusqu'au lit de sa maîtresse, qui attendait dans une chambre sans lumière. « Ma foi, au petit bonheur !» dit M. de Guise en se couchant. Au jour, il trouva que la dame était charmante. Seulement, elle fut bien étonnée et recommanda le secret au duc. La première personne à qui le duc alla conter la chose fut Monsieur de Créqui. Il aimait assez les vers et disait toujours qu'il voulait être poète. Un jour, le fouillou lui dit une épigramme de Gombeau. Le duc se la fait répéter une fois, deux fois, puis se promène tout pensif. Tout à coup, rappelant le gentilhomme, « Eh, monsieur, lui demanda-t-il, n'y aurait-il pas moyen que cette épigramme fût de moi ?» Un autre jour, il monte en carrosse. « Où conduirai-je, monseigneur ?» demande le cocher. « Partout où tu voudras, pourvu que j'aille chez monsieur le nonce et chez monsieur de Loménie. » Monsieur de Loménie étant plus près, le cocher l'y mène d'abord. Il ne voulut jamais croire que ce ne fût pas le nonce et s'opposa obstinément à ce que monsieur de Loménie le reconduisît. En sortant de là, il alla chez le nonce, qu'il traita fort cavalièrement. Comme son père et son grand-père, quoique sa fortune ne fût point en harmonie avec la leur, monsieur le duc de Guise était fort libéral. Un jour, il gagne au président de Chevry 50 000 livres sur parole. Le lendemain, celui-ci les lui envoie par son commis Raphaël Corbinelli. Il avait 40 000 francs en argent et 10 000 en écus d'or dans un petit sac. Monsieur de Guise prend le petit sac et le donne à Corbinelli pour sa peine. Celui-ci, en rentrant chez lui, ouvre son petit sac, voit de l'or, compte les 10 000 livres et comprend que monsieur de Guise s'est trompé. En toute hâte, il retourne à l'hôtel de Guise et dit au duc ce qu'il ramène. « Gardez, gardez, mon cher !» répondit celui-ci. « Dans ma famille, on n'a jamais repris ce que l'on avait donné. » Le duc de Guise mourut en 1740. Le chevalier de Guise était moins excentrique que son frère, et cependant, il avait sa bonne part d'originalité. Il était brave, beau, bien fait et de bonne mine. Seulement, dit Almandéréo, il avait l'esprit fort court. Un jour, il se confessa d'être l'amant d'une femme. Lui, au moins, ne disait ces choses-là qu'à son confesseur, tandis que son frère les disait à tout le monde. Le confesseur était un jésuite. « Mon fils, lui dit-il, je ne vous donnerai point l'absolution que vous ne quittiez votre maîtresse. » « Oh, quant à cela, dit le chevalier, je l'aime trop et n'en ferai rien. » Le jésuite s'obstina. Le chevalier tint bon et il fut convenu que l'on irait devant le Saint-Sacrement demander à Dieu d'ôter au pauvre chevalier cette obstination du cœur. On y va. Une fois à l'autel, le jésuite se met à conjurer Dieu avec le plus grand zèle du monde afin qu'il ait à guérir le jeune prince. Mais lui, voyant l'ardeur du bon père, s'enfuit, le tirant par la robe, pour lui dire, tout en s'enfuyant, « mon père, n'y allez pas si chaudement. Peste, Dieu n'aurait qu'à vous accorder ce que vous lui demandez. Qui serait puni, c'est moi. » Un jour, il passe devant un canon qu'on éprouve. « Attendez, dit-il aux artilleurs, et il se met à califourchon sur le canon. « Maintenant, allez, dit-il. » On a beau lui faire remarquer le danger qu'il courait. « Allez, allez toujours !» Voyant qu'il s'obstinait, les artilleurs cédèrent. L'un d'eux approcha la mèche de la lumière et mit le feu au canon. Le canon éclata et le chevalier de Guise disparut, haché en lambeaux. C'était à cet écervelée que Madame de Chevreuse renvoyait Buckingham. Nous verrons de quelle utilité le chevalier de Guise fut à Buckingham dans la fête donnée par sa belle-sœur. Un rapport que fit faire par sa police particulière le cardinal-duc nous a conservé tous les détails de cette fête. Comme ils appartiennent tout naturellement au côté déshabillé de la royauté, nous le reproduisons en entier, nous contentant d'en rajeunir la forme. D'abord, la reine, après être descendue de voiture, désira faire un tour dans les parterres. En conséquence, elle s'appuya sur le bras de la duchesse et commença sa promenade. Elle n'avait pas fait 20 pas qu'un jardinier se présenta devant elle et lui offrit d'une main une corbeille de fruits et de l'autre un bouquet. La reine prit le bouquet, mais au moment où elle accordait un salaire à la prévenance dont elle était l'objet, sa main toucha celle du jardinier qui lui dit quelques mots tout bas. La reine fit un geste d'étonnement et ce geste et la rougeur qui l'accompagna sont consignés dans le rapport où nous puisons ces détails. Aussi à l'instant même, le bruit se répandit que le galant jardinier n'était autre que le duc de Buckingham. Aussitôt, chacun se mit en quête. Mais il était déjà trop tard. Le jardinier avait disparu et la reine se faisait dire la bonne aventure par un magicien qui, à l'inspection seule de sa belle main qu'il tenait entre les siennes, lui contait des choses si étranges que la reine, en les écoutant, ne pouvait cacher son trouble. Enfin, ce trouble augmenta au point que la princesse perdit tout à fait contenance et que Madame de Chevreuse, effrayée des suites que pouvait avoir une pareille folie, fit signe au duc qu'il avait outrepassé les bornes de la prudence et l'engagea désormais à plus de circonspection. Toujours est-il que, quels que fussent les discours qu'elle entendait, Anne d'Autriche les souffrit, quoiqu'elle ne se fût pas plus méprise aux hommages du magicien qu'à ceux du jardinier. La reine avait de bons yeux, et d'ailleurs son officieuse amie était là qui voyait double. Le duc de Buckingham excellait dans l'art de la danse qui, à cette époque, nous en avons vu la preuve dans la sarabande dansée par le cardinal, n'était dédaigné de personne. Les têtes couronnées elles-mêmes avaient à cœur cette espèce de supériorité dont les dames se montraient fort touchées. Henri IV aimait beaucoup les ballets, et ce fut dans un ballet qu'il vit pour la première fois la belle Charlotte de Montmorency qui lui fit faire de si grandes folies. Louis XIII composait lui-même la musique de ceux qu'on dansait devant lui, et il en avait un préféré surtout que l'on appelait le ballet de la Merlaison. On sait en ce genre les succès de Gramont, de Lauzun et de Louis XIV. Buckingham figura donc avec un éclat surprenant dans un certain ballet de démons qu'on avait imaginé ce soir-là comme le plus gracieux divertissement dont on put réjouir leur majesté. Le roi et la reine applaudirent le danseur inconnu, qu'ils prirent, il est probable qu'un seul des deux commit cette erreur, pour un seigneur de la cour de France. Enfin, le ballet terminé, leurs majestés se préparèrent à ouvrir la séance du divertissement le plus pompeux de la soirée. Là aussi, Buckingham remplissait un rôle, et il l'avait non pas choisi, mais usurpé d'une manière bien audacieuse et bien adroite. C'était la coutume de flatter les rois jusque dans leurs plaisirs, et les Orientaux, si habiles dans ce genre de courtisanerie, étaient mis à contribution par les maîtres des cérémonies français. La coutume des mascarades dans le genre de celle que nous allons raconter se perpétua jusqu'en 1720 et fut appliquée une dernière fois à ces fêtes de nuit données par Madame du Maine en son palais de Sceaux et qu'on appelait les Nuits Blanches. Il s'agissait de supposer que tous les potentats de la terre, et surtout ceux des pays mystérieux qui sont situés de l'autre côté de l'équateur, les fabuleux Sophies, les camps bizarres, les Mongols riches à milliards et les Incas, souverains des mines d'or, s'avisaient un jour de se réunir pour venir adorer le trône du roi de France. On voit que l'idée n'était pas mal ingénieuse. Louis XIV, prince assez glorieux, comme on le sait, en fut dupe bien plus sérieusement encore lorsqu'il reçut la visite mystifiante du fameux ambassadeur persan Mehemet Riza Bey et qu'il voulut que la réception de ce charlatan fût faite avec toute la pompe dont la cour de Versailles était susceptible. Les rois orientaux, dans la fête dont nous parlons, devaient être représentés par les princes des maisons souveraines. Messieurs de Lorraine, de Rohan, de Bouillon, de Chabot et de la Trémouille furent désignés par le roi pour faire partie du divertissement. Le jeune chevalier de Guise, fils du Balafré qui faisait le grand Mogol, était frère cadet de M. de Chevreuse. C'était le même qui avait tué en duel le baron de Luz et son fils et qui, plus tard, s'étant mis sur un canon qu'on éprouvait, fut tué par ce canon qui creva. La veille même du divertissement, Buckingham avait été faire une visite au chevalier de Guise, lequel, comme tous les seigneurs de l'époque, se trouvant fort gêné d'argent, en était réduit aux expédients et, malgré toutes les ressources qu'il avait employées, commençait à avoir grand-peur de ne point paraître le lendemain à la fête de Madame de Chevreuse avec toute la magnificence qu'il eût désirée. Buckingham était connu par sa générosité. Depuis son arrivée à la cour de France, il avait obligé de sa bourse les plus fiers et les plus riches. Cette visite parut donc au chevalier de Guise une bonne fortune et il tournait dans son esprit le discours qu'il allait adresser au splendide ambassadeur lorsque celui-ci alla au-devant de ses désirs en se mettant à sa discrétion pour une somme de 3 000 pistoles et en offrant en outre au chevalier de lui prêter, pour rehausser l'éclat de son costume, tous les diamants de la couronne d'Angleterre que Jacques VI avait laissé emporter à son représentant. C'était plus que n'eût osé espérer le chevalier de Guise. Il tendit la main à Buckingham et lui demanda quelle chose il pouvait faire pour reconnaître un si grand service. « Écoutez, lui dit Buckingham, je voulais, c'est une satisfaction puérile peut-être, mais c'est une chose qui me fera grand plaisir, je voulais trouver occasion de porter à la fois sur mon habit toute cette cargaison de pierreries que j'ai apportée avec moi. Prêtez-moi votre place une partie de la soirée de demain. Tant que le grand mogol restera masqué, je ferai le grand mogol. Au moment où il faudra se démasquer, je vous rendrai votre place. Nous pourrons ainsi jouer, vous ostensiblement, moi en secret, chacun notre rôle. Nous ferons un seul personnage à nous deux, voilà tout. Vous souperez et je danserai. Cela vous convient-il ainsi ? » Le chevalier de Guise trouvait la chose trop facile à faire pour refuser le marché. Il accepta donc, se croyant l'obligé du duc et reconnaissant en lui son maître. Car, quoique ses folies eussent fait quelque bruit en France, il était loin encore d'approcher, pour l'extravagance surtout, d'un amoureux comme Buckingham. Les choses furent faites ainsi qu'il était convenu, et le duc, masqué, resplendissant au feu des lustres et des flambeaux, apparut au regard de la reine, escorté d'une suite nombreuse, dont la magnificence n'égalait point, mais ne déparait pas la sienne. La langue orientale est fertile en comparaisons emphatiques et en poétiques allusions. Buckingham mit tout son art à glisser à la reine plusieurs compliments passionnés. Cette situation plaisait d'autant plus à l'esprit aventureux du duc et à l'esprit romanesque d'Anne d'Autriche qu'elle était fort dangereuse. Le roi, le cardinal et toute la cour étaient là, et comme le bruit s'était déjà répandu que le duc se trouvait au bal, chacun regardait de tous ses yeux, écoutait de toutes ses oreilles. Mais nul ne se doutait que ce grand mogol, que l'on prenait pour le chevalier de Guise, fût Buckingham lui-même. Aussi le divertissement eut-il un si prodigieux succès que le roi ne put s'empêcher d'en témoigner sa satisfaction à Madame de Chevreuse. Enfin, arriva le moment où l'on annonça que le roi était servi. C'était l'heure de se démasquer et des salons avaient été préparés à cet effet. Le grand mogol et son porte-sabre se retirèrent dans un cabinet. Le porte-sabre n'était autre que le chevalier de Guise, qui prit à son tour les habits du duc et s'en alla souper en costume de grand mogol, tandis que Buckingham avait pris le sien. L'entrée du chevalier fut un véritable triomphe et il lui fut adressé force compliments sur la richesse de ses habits et sur la grâce avec laquelle il avait dansé. Après ce souper, le chevalier vint rejoindre le duc dans le cabinet où celui-ci l'attendait. Là, la transformation s'opéra de nouveau. Le chevalier redevint simple porte-sabre et le duc remonta au rang de grand mogol. Puis ils rentrèrent dans la salle. Il va sans dire que la richesse du costume de ce puissant souverain et le poste élevé qu'il occupait dans la hiérarchie des têtes couronnées lui valurent l'honneur d'être choisi par la reine pour danser avec elle. Buckingham eut ainsi, jusqu'au matin, toute liberté d'exprimer, sous le masque et dans le tumulte de la fête, des sentiments qui, grâce aux confidences préparatoires de Madame de Chevreuse, n'étaient déjà plus un secret pour la reine. Enfin, 4 heures du matin sonnèrent et le roi parla de se retirer. La reine ne fit aucune insistance pour rester, car déjà depuis quelques minutes, les 5 monarques avaient disparu et avec eux s'était évanoui l'entrain du bal et l'ornement de la fête. Anne d'Autriche regagna donc son carrosse. Un laquais, à la livrée et aux armes de la connétable, se tenait à la portière pour l'ouvrir et la refermer. À la vue de la reine, il mit un genou en terre, mais au lieu d'abaisser le marchepied, il tendit la main. La reine reconnut la galanterie de son amie Madame de Chevreuse, mais cette main lui pressa si doucement le pied qu'elle baissa les yeux sur l'officieux serviteur et qu'elle reconnut Buckingham. Quoiqu'elle fût préparée à tous les déguisements que le duc pouvait prendre, son étonnement fut si grand qu'elle poussa un cri et qu'une vive rougeur lui monta au visage. Ses officiers s'avancèrent aussitôt pour savoir la cause de cette émotion. Mais la reine était déjà au fond de son carrosse avec madame de Lannoy et madame de Vernet. Le roi revint dans le sien avec le cardinal. Mais si bien que le secret fût gardé, si intéressés que fussent à le tenir ceux qui avaient joué un rôle dans la comédie amoureuse, quelques jours s'étaient à peine écoulés après la fête que le bruit de ces divers déguisements se répandit à la cour. On disait, en outre et tout bas, que le duc possédait dans un cabinet de l'hôtel de l'ambassade un portrait d'Anne d'Autriche, que ce portrait était placé sous un dais de velours bleu surmonté de plumes blanches et rouges. On disait encore qu'un second portrait, médaillon enrichi de diamants, ne quittait pas le duc, qui le portait suspendu à son cou par une chaîne d'or. On savait la chose, prétendait-on, par ses familiers, et l'on ajoutait que son culte pour ce second portrait était si grand qu'il n'y avait aucun doute qu'il ne le tînt d'Anne d'Autriche elle-même. Ces bruits, qui tourmentaient le roi et faisaient damner le cardinal, rendaient de plus en plus dangereuses et de plus en plus difficiles les entrevues de Buckingham et de la reine. Les interventions de madame de Chevreuse étaient à bout. D'ailleurs, comme par sa police secrète, le cardinal avait appris qu'elle était la confidente des deux amants, et nous disons ici « amants » en invoquant la devise anglaise « on y soit qui mal y pense », comme le cardinal avait appris aussi qu'elle était la confidente des deux amants, elle était presque aussi sévèrement espionnée que la reine. Mais le danger enflammait Buckingham au lieu de le refroidir. Il résolut de tout risquer pour voir la reine seule, ne fût-ce qu'un instant. Il supplia madame de Chevreuse de s'informer auprès de la reine de quel œil celle-ci verrait une semblable entreprise. La reine répondit qu'elle n'aiderait en rien, mais laisserait faire. Cette réponse donnait carte blanche à Buckingham. Seulement, restait à trouver le moyen. « Cherche, dit l'Évangile, et tu trouveras. » Madame de Chevreuse chercha et trouva. Il y avait une vieille tradition qui avait grand cours. On racontait que, lorsqu'un roi ou une reine de France devait mourir, un fantôme apparaissait qui présageait cette mort. Ce fantôme était du sexe féminin et avait nom la Dame Blanche. Nous avons vu de nos jours une autre tradition non moins populaire la remplacer, c'est celle du petit homme rouge. Madame de Chevreuse raconta au duc de Buckingham la tradition de la Dame Blanche dans tous ses détails et lui proposa de jouer le rôle du fantôme. Le duc accepta. Pourvu que ce rôle le conduisît en face de la reine, peu lui importait sous quel déguisement il y viendrait. Il y avait une chose incontestable, c'est que, fût-il vu sous ce formidable costume de la Dame Blanche, personne n'oserait lui barrer le passage. Maintenant, l'apparition aurait-elle lieu dans la journée, dans la soirée ou dans la nuit? La reine repoussa également la journée parce que, dans la journée, le duc perdrait le bénéfice de son déguisement et la nuit, parce que, la nuit, ce bénéfice, au contraire, serait peut-être trop grand. Elle adopta la soirée. Mais alors il y eut discussion entre elle et madame de Chevreuse. Dans la soirée, il arrivait parfois à Louis XIII de descendre chez Anne d'Autriche et le duc pouvait rencontrer le roi. Mais la reine battit en brèche cette objection en disant que l'on pouvait hardiment se fier à son valet de chambre Bertin. Bertin veillerait sur le corridor du roi et si le roi sortait de son appartement, il préviendrait sa maîtresse. À tout hasard, on tiendrait ouverte une porte de dégagement et par cette porte fuirait le duc. Il fut donc décidé que ce serait pendant la soirée, à 9 heures du soir, que Buckingham entrerait au Louvre. À 9 heures, en effet, le duc frappait à la porte de l'appartement de madame de Chevreuse. C'était chez la confidente commune que devait s'opérer la transformation. Madame de Chevreuse était, en outre, chargée de confectionner le déguisement. Les deux amoureux avaient là, comme on voit, une précieuse amie. Le costume était prêt et attendait le duc. Il est vrai que le duc ne fit pas attendre longtemps le costume. Il consistait en une longue robe blanche d'une forme bizarre, constellée de larmes noires et ornée de deux têtes de mort, l'une placée sur la poitrine, l'autre dans le dos. Un bonnet blanc et noir comme la robe, un immense manteau noir et un de ses chapeaux, dont Beaumarchais coiffa depuis son Basile, complétaient ce costume. Mais, à la vue de ce grotesque accoutrement, la coquetterie de Georges Villiers se révolta. le moyen que le plus bel homme des trois royaumes consentit, même pour un instant, à devenir ridicule. Aussi déclara-t-il tout net que jamais il ne se présenterait ainsi devant Anne d'Autriche sous un pareil déguisement. Mais le duc, sous ce rapport, trouva chez Madame de Chevreuse un entêtement égal au sien. La confidente déclara que c'était à prendre ou à laisser, qu'il n'y avait que ce moyen de voir la reine, que le duc la verrait en dame blanche ou ne la verrait pas. Puis vinrent les reproches. Le duc se disait amoureux et hésitait au moment de voir celle qu'il prétendait aimer. De son côté, la reine avait consenti à tout. Prévenue, elle attendait le duc, et le duc allait la faire attendre inutilement. C'était une grande chance pour ne la revoir jamais. Il y avait un grain de malice au fond de cette insistance de Madame de Chevreuse. Selon toute probabilité, la railleuse confidente se faisait une fête après avoir vu un cardinal déguisé en danseur espagnol, de voir un ambassadeur déguisé en fantôme. Peut-être aussi, de son côté, la reine, se sentant entraînée vers le beau duc, voulait-elle se donner des armes à elle-même en le voyant sous cet accoutrement plus que bizarre. Enfin, le duc céda, réfléchissant peut-être que, sous quelque déguisement que ce fût, sa belle et noble tête conserverait sa grâce et sa séduction. Mais sur ce point, il avait encore compté sans Madame de Chevreuse. Il fallait que, si le duc était vu, il ne fût point reconnu. Elle avait, en conséquence, décidé dans sa sagesse qu'elle déguiserait la tête comme elle avait déguisé le reste du corps. À cette proposition, faite par Madame de Chevreuse, d'un ton si ferme que Buckingham vit bien qu'il faudrait céder comme au reste du costume, il offrit, en matière de concession, de mettre un masque de velours noir. Ces sortes de masques qui portaient le nom de loup, nous invitons ceux qui savent l'étymologie du nom à nous la dire, ces sortes de masques étaient fort en usage à cette époque et Buckingham comptait, en ôtant le sien, rentrer dans tous ses avantages. Mais, en faisant cette proposition, il avait toujours compté sans Madame de Chevreuse. Le masque pouvait tomber, le véritable visage apparaître, le duc être reconnu, tout le monde compromis. C'était tout autre chose qu'un loup qu'il fallait appliquer sur le visage du malheureux duc. Il était 10 heures. La discussion avait dévoré une cinquantaine de minutes. La mère de celui qui, un jour, faillit attendre, attendait déjà sans doute. Le duc dut présenter son visage et se laisser faire. Un physicien nommé Norblin venait de signaler une nouvelle découverte. Il s'agissait d'une pellicule couleur de chair, au moyen de laquelle, à l'aide d'une cire blanche et molle, on pouvait se défigurer entièrement. Cette pellicule se superposait à tous les méplats du visage et formait un masque adhérent à la peau, laissant les yeux libres, mais changeant complètement la forme des traits. Grâce à cette ingénieuse invention, au bout de 5 minutes, Buckingham était devenu méconnaissable à ses propres yeux et se faisait peur à lui-même. L'opération du masque achevée, le duc ôta son manteau, mais tint bon pour le reste de son costume. La robe fut donc passée par-dessus son pourpoint et ses chausses. Puis il enferma ses beaux cheveux blonds et bouclés dans le bonnet fantastique, recouvrit du masque de velours son visage, déjà défiguré par la pellicule de l'ingénieux physicien, mit sur le tout un chapeau à large bord et, donnant le bras à Madame de Chevreuse, monta avec elle dans son carrosse. Ce carrosse était connu au Louvre et ne pouvait inspirer aucune défiance. On avait l'habitude de le voir entrer et sortir à toute heure du jour et même de la nuit. Au reste, le duc devait être introduit par les petites entrées. Au guichet du Louvre, Bertin faisait sentinelle. Le concierge était prévenu par lui qu'il était là, attendant un astrologue italien que la reine voulait consulter. Une fois le guichet passé, le chemin était libre jusque chez la reine. Anne d'Autriche avait eu le soin d'éloigner Madame de Flotte, sa dame d'honneur. Elle était seule et attendait avec anxiété. À la porte, le valet de chambre abandonna Madame de Chevreuse et le duc et alla se mettre en observation au bas de l'escalier du roi. Madame de Chevreuse n'eut pas besoin de frapper. Habituée à entrer à toute heure chez sa royale amie, elle avait une clé de son appartement. Elle introduisit le duc et entra derrière lui, laissant la clé à la porte, afin que, en cas d'alerte, Bertin pût entrer à son tour. Après avoir traversé 2 ou 3 chambres, le duc se trouva enfin en présence de la reine. Alors ce que le galant ambassadeur avait prévu arriva. Quelle que fût son angoisse, Anne d'Autriche ne put s'empêcher de rire. Buckingham comprit que ce qu'il avait de mieux à faire était de ne pas demeurer en reste de gaieté. Il fit les honneurs de sa personne avec la désinvolture d'un homme d'esprit, et bientôt la reine, oubliant le côté ridicule de la mascarade, ne vit plus que les risques encourus par un amant passionné. Buckingham profita du changement qui se faisait dans l'esprit d'Anne d'Autriche. Il la supplia de lui accorder quelques minutes de tête-à-tête. La reine, vaincue par cette voix si douce, ouvrit la porte de son oratoire et y entra. Buckingham l'y suivit. Madame de Chevreuse poussa doucement la porte et resta dehors. 10 minutes s'écoulèrent. Au bout de ces 10 minutes, Bertin entra tout pâle et tout effaré en criant « Le roi !» Madame de Chevreuse ouvrit la porte et répéta le cri d'alarme « Le roi !» Mais sa terreur fut grande. Buckingham, non plus en dame blanche, mais sans masque, ses beaux cheveux flottant sur ses épaules, ayant rejeté son costume de fantôme et vêtu de ses habits de cavalier, était aux pieds de la reine. Il n'avait pu y tenir et, au risque d'être reconnu, il s'était montré à sa bien-aimée reine tel qu'il était, c'est-à-dire comme un des plus beaux cavaliers du monde. Mais la question n'était plus là. Le valet de chambre éperdu ne cessait de crier « Le roi ! Le roi !» Il fallait fuir, et cela sans perdre une seconde. Madame de Chevreuse ouvrit un petit couloir qui donnait sur le corridor. Le duc s'élança dans le couloir, emportant toute sa défroque. Madame de Chevreuse s'y élança derrière lui. La porte se referma, et Anne d'Autriche, à moitié évanouie, rentra dans sa chambre et se laissa tomber dans un fauteuil, s'attendant à chaque instant à voir apparaître le roi. Une fois dans le corridor, Buckingham voulait jeter la robe et le manteau et fuir en cavalier. Mais Madame de Chevreuse ne permit point une pareille imprudence. Elle força le duc à endosser la robe, à replacer le masque sur son visage, à se recoiffer de son bonnet, et seulement alors lui permit de continuer son chemin. Bien lui en prit d'avoir exigé du duc toutes ses précautions. Arrivé à l'extrémité du corridor, le fugitif rencontra les gens du petit service. Il fit un mouvement pour retourner en arrière. Dans ce mouvement, le manteau tomba. Mais cet accident prouva combien étaient intelligentes les précautions de Madame de Chevreuse. En voyant cette grande robe constellée de larmes et ornée de 2 têtes de mort, les gens du petit service, au lieu de courir après le duc, s'enfuirent chacun de son côté, comme si le diable les emportait, criant « La dame blanche ! La dame blanche !» Ce que voyant, le duc, au lieu de continuer de fuir de son côté, il s'élança à leur poursuite, et tandis que Madame de Chevreuse retournait près de la reine, que Bertin ramassait le chapeau et le manteau, il atteignit l'escalier, gagna la porte et se trouva dans la rue. En rentrant chez son amie, Madame de Chevreuse l'avait trouvé pâle et tremblante sur son fauteuil. Mais, en entendant sa joyeuse compagne rire aux éclats, Anne d'Autriche comprit que le danger était passé. En effet, comme nous l'avons dit, le duc avait gagné la rue. Quant au roi, il avait bien, il est vrai, quitté son appartement, mais ce n'était point pour descendre chez la reine. Ayant une grande chasse arrêtée pour le lendemain, il allait, afin de ne point perdre de temps, coucher au lieu du rendez-vous. Il avait passé devant la porte de la reine, mais n'avait même pas eu l'idée de prendre congé d'elle, devant revenir au Louvre le lendemain au soir. À son retour, il trouva le château tout en émoi, s'informa et apprit que la fameuse dame blanche avait couru par les corridors. Il fit venir les gens qui avaient vu le fantôme, les interrogea, reçut des réponses précises sur les allures et le costume du spectre, et comme ce costume et ses allures étaient parfaitement conformes à ceux de la tradition, il ne fit aucun doute que l'apparition ne fût réelle. Mais le cardinal fut moins crédule que le roi. Il mit sa police sur les traces de la prétendue dame et sut par Boisrobert, qui séduisit Patrice Aurélie, valet de chambre du duc, la vérité vraie touchant le singulier événement que nous venons de raconter. Sur ces entrefaites arriva à Paris la nouvelle de la mort de Jacques VI. Le digne roi était trépassé le 8 avril 1625 et Charles Ier, âgé de 25 ans, était monté sur le trône. L'ambassadeur reçut en même temps la nouvelle de cette mort inattendue et l'ordre de presser le mariage. Nul ordre ne pouvait être plus désagréable à Buckingham et plus agréable au roi et à Richelieu. Buckingham avait compté sur la parenté de Madame Henriette avec Charles Ier pour retarder le mariage. Ils étaient cousins germains. Il savait combien, d'habitude, la cour de Rome est lente pour les dispenses. Mais il avait compté sans les intérêts réunis de Louis XIII et de Richelieu. À la suite d'une conférence avec le roi, Richelieu écrivit au pape que, s'il n'envoyait pas la bulle, on s'en passerait. Richelieu reçut la dispense courrier par courrier. Un mois et demi après la mort du roi Jacques, le mariage se fit. Monsieur de Chevreuse remplaça Charles Ier, dont, par Marie Stuart, il était le petit cousin, et le 11 mai, sur un petit théâtre dressé devant le portail de Notre-Dame, Madame Henriette et son époux provisoire furent unis par Monsieur le cardinal de la Rochefoucauld. Charles Ier réclamait sa femme à grands cris. Force fut donc à Buckingham de se mettre en route, aussitôt la cérémonie achevée. Par bonheur pour le favori, on marchait à cette époque à petite journée. La cour de France devait accompagner la reine jusqu'à Amiens. À Amiens, l'on s'arrêta. Là devait arriver cette fameuse aventure qui fit tant de bruit et qui est consignée dans les mêmes termes à peu près chez La Porte, chez Madame de Motteville et chez Talmand des Réaux. Les trois reines, Anne d'Autriche, Marie de Médicis et Madame Henriette, n'avaient point trouvé de logis convenable dans la ville pour les recevoir toutes trois. Il leur avait fallu prendre des hôtels séparés. Celui d'Anne d'Autriche était situé près de la Somme, avec des grands jardins descendant jusqu'à la rivière. Comme il se trouvait à la fois le plus commode et le plus pittoresque, il était le rendez-vous des autres reines, et comme Buckingham, pour donner à cette dernière halte toute l'extension possible, inventée fête sur fête, c'était là aussi le rendez-vous de la cour. On était d'autant plus libre que, depuis trois jours, le roi et le cardinal avaient été forcés de partir pour Fontainebleau. Depuis ce départ, il va sans dire que Buckingham avait remis toutes ses batteries en jeu. Donc, un soir que la reine, par un temps magnifique, par une de ces douces nuits de mai amoureuses et parfumées, avait prolongé sa promenade dans les jardins, toute frissonnante de ces tièdes inquiétudes que donnent les premières brises du printemps, advint cette fameuse aventure que l'on nomma l'aventure d'Amiens. Voici comment, selon toute probabilité, les choses se passèrent. Le duc de Buckingham donnait la main à la reine et Lord Rich accompagnait Madame de Chevreuse. On avait d'abord été se promener sous les allées sombres et couvertes. On avait admiré les reflets de la lune brisant ses rayons argentés dans le cours de la Somme. Puis on s'était assis sur une pelouse, jeunes gens et jeunes femmes semblables à ceux et à celles du Décaméron de Boccace. Enfin, la reine s'était levée, avait repris le bras du duc et s'était éloignée, distraitement peut-être, ne songeant point à ce qu'elle faisait et sans inviter personne à la suivre. Calculée ou instinctive, l'imprudence n'en était pas moins grande. À défaut de pas, tous les yeux avaient suivi la reine et le duc et on les avait vus disparaître derrière une charmille. Tout à coup, on entendit un cri étouffé et l'on reconnut la voix de la reine. À ce cri, le premier écuyer de la reine, Putange, mit l'épée à la main et passa à travers la charmille. Il vit la reine se débattre au bras de Buckingham. À l'aspect de cet homme tenant une épée nue à la main, le duc dégaina de son côté, lâcha la reine et se rua furieux sur Putange. La reine n'eut que le temps de se jeter entre eux deux, criant tout à la fois au duc de se retirer et à Putange de remettre son épée au fourreau. Buckingham obéit. Toute la cour s'empressa d'arriver sur le théâtre de l'événement. Mais la reine et Putange étaient seuls. Buckingham avait disparu. On s'empressa autour de la reine, chacun questionnant les massifs, furetant des yeux. Mais Anne d'Autriche... « Ce n'est rien, » dit-elle. « Monsieur de Buckingham s'est éloigné, me laissant seul, et j'ai eu si grand peur de me trouver ainsi perdu dans l'obscurité que j'ai appelé à mon aide. Je vous remercie, Putange, d'être venu. » On ne pouvait démentir la reine. On fit donc semblant, devant elle, de croire à cette version. Mais il va sans dire que derrière elle, la vérité sortit de terre. La Porte raconte en toutes lettres que le duc s'émancipa jusqu'à vouloir caresser la reine, et Talmand des Réaux, très malveillant du reste pour la cour, va un peu plus loin encore. Le lendemain, on partit. la reine-mère ne pouvait se décider à se séparer de Madame Henriette. Elle voulut reconduire sa fille pendant quelque temps encore. On remonta en carrosse. Le carrosse se composait de Marie de Médicis, d'Anne d'Autriche et de la princesse de Conti. La reine-mère et Madame Henriette étaient au fond. Anne d'Autriche, la princesse de Conti, était sur le devant. Il fallut enfin se séparer. Les voitures firent halte. Le duc de Buckingham vint ouvrir la portière du carrosse des reines et offrit la main à Madame Henriette pour la conduire au carrosse qui lui était destiné et où l'attendait Madame de Chevreuse, chargée de l'accompagner jusqu'en Angleterre. Mais à peine eut-il remis la jeune reine à son étrange chaperon, qu'il revint vers le carrosse des reines, entr'ouvrit vivement la portière et, malgré la présence de la reine-mère et de la princesse de Conti, prit le bas de la robe d'Anne d'Autriche et le baisa avec passion. Puis, comme la reine lui faisait remarquer que cette étrange marque de sa passion pouvait la compromettre, il se releva, mais n'ayant pas le courage de s'éloigner, s'enveloppa dans les rideaux de la litière, du milieu desquels sortirent bientôt des sanglots étouffés. Au bruit de ces sanglots, la reine, de son côté, ne put retenir ses larmes. Elle porta son mouchoir à ses yeux, et la reine-mère et la princesse purent voir, au mouvement de son sein, qu'elle pleurait abondamment. Enfin, comme, en se prolongeant, cette scène devenait ou ridicule ou dangereuse, tout à coup Buckingham s'arracha de la voiture de la reine et, sans adresser aucun adieu à personne, s'élança dans celle de Madame Henriette et donna l'ordre de partir. Anne d'Autriche croyait cet adieu le dernier et, n'espérant plus revoir Buckingham qu'au fond du cœur elle aimait tendrement, elle n'essaya même plus de cacher sa tristesse et laissa les larmes inonder son visage. C'était à Boulogne que l'embarquement devait avoir lieu. En arrivant à Boulogne, il se trouva que le vent, d'accord avec les désirs de Buckingham, soufflait du nord et refoulait les vagues dans la rade. Le pilote déclara qu'il était impossible de mettre à la voile. Buckingham était incertain sur ce qu'il allait faire lorsqu'il vit arriver la porte le fidèle valet de chambre d'Anne d'Autriche. Celui-ci avait deux missions, l'une ostensible, l'autre cachée. La mission ostensible était celle-ci. La reine, ayant su le retard apporté au voyage par le mauvais temps, fait demander des nouvelles de Madame Henriette. La mission cachée était, selon toute probabilité, quelques messages, soit verbal, soit écrit, pour Buckingham. Le mauvais temps dura 8 jours. Pendant ces 8 jours, la porte fit 3 voyages à Boulogne. Au retour de son 3e voyage, il annonça à la reine Anne que, le soir même, elle reverrait Buckingham. Buckingham avait, disait-il, reçu du roi Charles Ier une dépêche qui nécessitait une dernière entrevue avec la reine-mère. Le duc, au nom de son amour, faisait supplier Anne d'Autriche de s'arranger de façon qu'il la trouvât seule. C'était une nouvelle excursion dans le pays de l'aventure. Mais Anne d'Autriche était tellement sollicitée par son propre cœur à faire ce que demandait le duc, que, sans doute dans le but de se ménager un tête-à-tête, elle avait déjà annoncé qu'elle allait se faire saigner et avait congédié tout le monde, lorsque Nogent Bautru entra et annonça à toute la société qui se retirait que le duc de Buckingham et Lord Rich venaient d'arriver. C'était le renversement de tous les projets d'Anne d'Autriche. Si elle demeurait seule maintenant, il était évident que cette solitude, même innocente, donnerait lieu aux plus malignes interprétations. Il n'y avait qu'un moyen, c'était de se faire réellement saigner. Elle l'employa, espérant que cette opération éloignerait tout le monde. Mais malgré ses instances, malgré le désir qu'elle exprima de rester seule pour essayer de dormir, elle ne put éloigner Madame de Lannoy. Or, la reine avait toute raison de croire que Madame de Lannoy était une créature appartenant corps et âme au cardinal. Elle attendait donc, pleine d'angoisse, ce qui allait arriver. À 10 heures, la porte s'ouvrit et l'on annonça le duc de Buckingham. En même temps que Madame de Lannoy disait « La reine n'est pas visible !» La reine disait « Faites entrer !» Le duc, collé contre la porte, n'attendait que cette permission. À peine lui fut-elle donnée qu'il se précipita dans la chambre. La reine était au lit, Madame de Lannoy debout à son chevet. Le duc s'arrêta court sur le seuil. Il croyait la reine seule. Il était visible que le tonnerre tombant à ses pieds l'eût moins atterré que cette présence de Madame de Lannoy. La reine vit l'effet produit et eut pitié du duc. Elle lui dit en espagnol quelques mots de consolation. Sans doute ces quelques mots expliquaient la présence de Madame de Lannoy. Alors le duc s'avança lentement, s'agenouilla devant le lit, baisa les draps, et cela avec tant de passion que Madame de Lannoy fit observer au duc qu'il s'éloignait des règles de l'étiquette française. « Eh, madame, dit le duc avec impatience, je ne suis pas français et les lois de l'étiquette française ne peuvent m'engager. Je suis Georges Villiers, duc de Buckingham, ambassadeur du roi Charles Ier. Je représente une tête couronnée. En conséquence, il n'y a qu'une personne ici qui ait le droit de louer ou de blâmer ma conduite, c'est la reine. » Puis, s'adressant à la reine elle-même, « Oui, madame, dit-il, ordonnez, et à vos ordres, j'obéirai à genoux. À moins que ces ordres ne me commandent une chose impossible, c'est-à-dire de ne plus vous aimer. »
Jésus-Dieu ! S'écria Madame de Lannoy. Milord Duc n'a-t-il pas eu l'audace de dire qu'il aimait Votre Majesté ?
Eh oui, s'écria le Duc, je vous aime, madame. Et puisque l'on en doute, je répéterai l'aveu de cet amour à la face du monde entier. Oui, je vous aime. Et comme une vie passée loin de vous me serait insupportable, je n'ai plus qu'un désir, qu'un but, c'est de vous revoir. Et pour vous revoir, fût-ce malgré le roi, fût-ce malgré le cardinal, fût-ce malgré vous-même, j'emploierai tous les moyens qui seront en mon pouvoir. Ainsi donc, tenez-vous-le pour dit, dussé-je bouleverser l'Europe pour vous revoir, je vous reverrai. Et à ces mots, saisissant la main de la reine, il la couvrit de baisers, malgré les efforts qu'elle faisait pour la retirer. Puis, comme un fou, comme un insensé, il s'élança hors de l'appartement.
« Fermez la porte derrière le duc et laissez-moi seule, madame !» dit la reine.
Madame de Lannoy obéit. À peine Anne d'Autriche fut-elle seule qu'elle fit appeler cette duègne dont nous avons déjà parlé, Doña Estefania. Puis, se faisant donner papier, encre et plume, elle traça quelques mots à la hâte, prit une cassette cachée dans la ruelle de son lit et ordonna à Doña Estefania de porter au duc la lettre et la cassette. La lettre était un ordre de partir. La cassette contenait ces 12 ferrets de diamants que le roi avait donnés à la reine pour la fête de Madame de Chevreuse. 3 jours après, la mer se calma et le duc partit pour l'Angleterre, amenant au roi Charles Ier la fille de Henri IV. Les craintes d'Anne d'Autriche n'étaient que trop fondées. Le cardinal sut dans tous ses détails l'aventure des jardins d'Amiens. Le cardinal sut dans tous ses détails l'apparition de Buckingham dans la chambre de la reine. Du moment que le cardinal le savait, le roi devait le savoir. Seulement, chaque détail, en passant par la bouche d'un prêtre, prenait un caractère plus grave. D'une étourderie, il avait trouvé le moyen de faire un crime. C'était une des roueries du premier ministre que d'incruster ses propres sentiments dans le cœur du roi. Ainsi, peut-être abandonné à sa propre impulsion, Louis XIII n'eût-il pas été jaloux d'Anne d'Autriche ou ne l'eût-il pas fait souffrir de cette jalousie? Mais poussé par Richelieu, dont il ignorait l'amour, il se constitua le gardien de la reine, sans se douter qu'il la gardait non seulement pour son propre compte, mais encore pour le compte de son ministre. Il en résulta que, la colère du ministre gagnant le roi fit grand bruit des 2 aventures que nous avons racontées. On congédia Madame de Vernet, on chassa Putange. Sans doute, on eût disgracié Madame de Chevreuse si elle eût été à Paris. Mais Madame de Chevreuse était à Londres et la colère du roi passa sans l'atteindre. Cependant, soit que Madame de Lannoy eût su que la reine avait donné une cassette à Buckingham et que cette cassette renfermait des ferrets, soit que, ne les voyant plus dans l'écrin de la reine, elle se douta simplement de quelle façon ils avaient disparu, elle prévint le cardinal de leur disparition et du chemin qu'elle pensait qu'ils avaient pris. Le cardinal vit dans cette révélation un moyen de perdre la reine. Il écrivit à Lady Clarick, qui avait été la maîtresse de Buckingham, et lui promit 50 000 livres si elle parvenait, d'une façon ou d'une autre, à couper 2 des 12 ferrets et à les lui envoyer. Un beau jour, Richelieu reçut les 2 ferrets. Lady Clarick avait réussi. Le cardinal paya scrupuleusement les 50 000 livres promises et dressa ses batteries pour perdre la reine.
Le plan était bien simple. Pousser le roi à donner ou à recevoir une fête et faire prier par lui la reine de venir à cette fête avec ses ferrets. Le hasard sembla d'abord être de moitié dans le jeu du cardinal. Les échevins de Paris donnaient un bal à l'hôtel de ville. Ils invitèrent le roi et la reine à honorer ce bal de leur présence. Le cardinal glissa un mot dans l'oreille du roi et la reine reçut une invitation qui équivalait à un ordre. Cette invitation était de se parer de ses ferrets. Le cardinal était là quand le roi avait exprimé ce désir conjugal à Anne d'Autriche. Il en avait suivi l'effet sur le visage de la reine et, à son grand étonnement, le visage de la reine demeura parfaitement calme. Puis, avec une voix dans laquelle il était impossible de découvrir la moindre émotion, « C'était mon intention, sire, » répondit-elle. Richelieu rentra chez lui, doutant de lui-même. Il examina les deux ferrets. Il n'y avait point à s'y tromper, il faisait bien partie des 12 donnés par le roi à la reine. L'heure du bal arriva. Le cardinal y assistait. Le roi venait de son côté, la reine devait venir du sien. Le cardinal passa à attendre la reine, une des heures les plus anxieuses peut-être qu'il eût passées de sa vie. La reine entra dans une toilette charmante, mais de la plus grande simplicité. Son seul luxe, c'était ses 12 ferrets que lui avait donnés le roi. Richelieu s'approcha d'elle, sous prétexte de louer son goût, examina sa toilette dans le plus grand détail, compta les ferrets. Tous les 12 y étaient, et non seulement il ne manquait pas un ferret aux aiguillettes, mais encore il ne manquait pas un diamant au ferret. Et cependant le cardinal, avec des convulsions de rage, serrait les 2 ferrets dans sa main. Voici ce qui s'était passé. En revenant du bal et en se dévêtant, Buckingham s'aperçut que 2 ferrets venaient de lui être volés. Sa première idée fut qu'il avait été victime de la hardiesse d'un voleur ordinaire. Mais, en y réfléchissant bien, il devina facilement que les ferrets avaient été enlevés dans une intention hostile. Il songea à l'instant même au tort qu'une dénonciation pouvait faire la reine. Maître comme grand amiral de tous les ports du royaume, il mit à l'instant même l'embargo sur tous les ports d'Angleterre. Il y avait peine de mort pour tout patron de bâtiment qui mettrait à la voile. L'Angleterre tressaillit de surprise. Elle crut que quelque grande conspiration venait d'être découverte, que quelque guerre mortelle était déclarée. Les politiques les plus habiles bâtirent 100 romans, dont pas un n'approchait de la vérité. Pourquoi l'embargo était-il mis sur tous les ports du royaume? Pour que le joaillier de Buckingham eût le temps de faire 2 ferrets pareils aux 2 ferrets volés. La nuit suivante, un léger bâtiment, pour lequel seulement la consigne était levée, voguait vers la France et apportait les 12 ferrets à Anne d'Autriche. 12 heures après le départ de la goélette, l'embargo était levé. Il en résulta que la reine avait reçu les ferrets 24 heures avant l'invitation que lui fit le roi de s'emparer pour le bal de l'hôtel de ville. De là cette grande tranquillité dont s'était si fort étonné le cardinal, qui croyait tenir dans sa main l'exil de son ennemi. Le coup était terrible pour lui. Mais, avec les moyens dont il pouvait faire usage, le cardinal ne se regarda point pour battu. Ce qu'il n'avait pas pu faire avec Buckingham, il y réussirait peut-être avec le duc d'Anjou. Le cardinal, en mettant le duc d'Anjou en avant et en essayant de perdre la reine, se délivrait de 2 ennemis. Le duc d'Anjou détestait de longue main le cardinal. Dès 1624, celui-ci avait, le 9 juin, fait mettre son gouverneur, M. d'Ornano, à la Bastille. Puis Richelieu voulait absolument marier M. le duc d'Anjou, lequel n'y tenait aucunement, surtout avec la femme que l'on voulait lui donner. Cette femme était Mademoiselle de Guise, fille du feu duc de Montpensier. Or le cardinal, écarté un instant de ses soupçons sur Gaston et de la reine par les amours bien autrement réels de Buckingham, Buckingham parti, le cardinal revint à se pis-aller. Il mit la résistance de monsieur au mariage sur le compte de son amour pour la reine. Puis il inventa une conspiration. On sait qu'en fait de conspiration, nulle imagination n'était plus inventive que celle de monsieur le cardinal de Richelieu. Il prétendit que le colonel d'Ornano, qui venait de recevoir le bâton de maréchal, avait l'intention d'enlever le jeune prince, de l'emmener hors de la cour et même hors de France, et de le réserver pour quelque alliance plus illustre. Si l'on s'en rapporte aux mémoires du cardinal, cette conjuration était une des plus horribles qui eussent jamais été tramées. Tous les princes et les grands devaient s'unir à cette révolte. L'Espagne aidait le complot de son argent. Les quadruples de Philippe IV compromettaient Anne d'Autriche. Il fallait donc les faire sonner bien fort. Le duc de Savoie y entrait par ressentiment de la paix faite avec l'Espagne. Les Huguenots en espéraient leur salut. Quant au roi, on devait le mettre dans un monastère, ni plus ni moins qu'un prince mérovingien. En conséquence, le cardinal décida que, la conspiration étant mûre, on arrêterait le maréchal d'Ornano comme donnant de mauvais conseils au jeune prince. Ce qui était décidé fut fait. Le soir du 4 mai 1626, la cour étant retirée, le roi fit appeler le maréchal d'Ornano. Le maréchal était en train de souper. Il se leva de table et se rendit à l'invitation du roi. Au lieu du roi, le maréchal trouva le capitaine des gardes qui lui demanda son épée et le mena prisonnier dans la même salle où, 24 années auparavant, Henri IV avait fait conduire le maréchal de Biron. Le lendemain, on transféra le maréchal d'Ornano au donjon de Vincennes. Ses deux frères furent mis à la Bastille. Sa femme eut ordre de se retirer au champ dans une de ses maisons. Le duc d'Anjou, dit gravement l'histoire, fut fort touché de cet événement. Voyons un peu, en entr'ouvrant la porte, de quelle façon le jeune prince manifesta son mécontentement. D'abord, monsieur, apprenant l'arrestation de son gouverneur, s'en alla directement pester dans la chambre du roi, disant à sa majesté qu'il voulait savoir qui lui avait donné l'idée de faire arrêter le maréchal. Le jeune prince était dans une si grande colère que le roi en eut peur et lui dit que ce qu'il avait fait, il l'avait fait par l'avis de son conseil. Monsieur, toujours furieux, alla trouver le chancelier d'Aligre. Le chancelier d'Aligre, bonhomme chartrain, vrai cul de plomb, esprit doux et timide, répondit en tremblant que ce n'était pas lui et qu'il n'était pas informé de cette arrestation. Monsieur revint chez le roi et fit plus de bruit qu'auparavant. Si bien que le roi, ne sachant comment s'en débarrasser, envoya chercher le cardinal afin qu'il se débrouillât avec son frère. Richelieu, sans dénégation ni embâge, déclara tout net que c'était lui qui avait donné au roi l'avis de faire arrêter le maréchal et qu'un jour monsieur l'en remercierait tout le premier. « Moi, moi !» dit monsieur étouffant de colère. « Tenez, vous êtes un champ-foutre !» Et sur ces belles paroles, il s'en alla. Ce fut l'oraison funèbre du maréchal d'Ornano qui, arrêté le 4 mai, mourut le 3 septembre. Le bruit courut qu'il avait été empoisonné. On combattit ce bruit en disant qu'il avait été mis dans une chambre trop humide. Cette chambre trop humide devint proverbiale. On y mettait tous ceux que l'on ne voulait pas loger trop longtemps. Madame de Rambouillet disait, en parlant de cette chambre, « Elle vaut son pesant d'arsenic !»